Et à midi, on aime l'été. Ah, on aime l'été pour tous les beaux sujets que l'été nous permet de sortir un peu de Montréal. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, puisque notamment je vais vous amener visiter le Centre de la nature de Laval, oui, qui est facile d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Également aujourd'hui, nous ferons un retour sur la consultation publique sur la cohabitation sécuritaire entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds, et ce grâce à Martine Lorrain, qui est consultante en aménagement et urbanisme à la Société Logique, dont on parlera également pour bien en connaître la mission. Également aujourd'hui, alors on ira beaucoup plus loin, on ira même jusqu'en Gaspésie, à la découverte du parc Forillon accessible, car oui, il y a beaucoup de choses à faire au parc Forillon, même si on est en fauteuil roulant. Alors on ira parler avec Sébastien Nadeau, qui est gestionnaire de l'expérience du visiteur au parc Forillon. Et puis, on va faire connaissance avec quelqu'un d'exceptionnel, c'est Camille Chai. Elle est thérapeute en relation d'aide et elle est aussi membre de l'équipe nationale d'escrime, para-escrime, comment dit-on peut-être? On lui demandera. Tiens. On commence par quelques nouvelles, comme tous les jours. Pourquoi les troubles de la vue explosent-ils? C'est une question qu'on se pose sur le site scienceetvie.com. C'est le vieillissement de la population, mais aussi certains modes de vie contemporains qui expriment le boom de maladies de l'œil. Petit passage en revue à ce moment-là de ce qui trouble notre vision, voir flou, voir tout gris, ne plus rien voir du tout. Fragile, notre œil est de tous nos organes sensoriels celui qui est le plus exposé. Alors côté maladie, les principales menaces sont celles qui s'installent progressivement, abîmant le cristallin, la cataracte, la rétine, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qu'on appelle aussi la DMLA, la rétinopathie ou le nerf optique, le glaucome. Des maladies typiques des pays développés où la population vit plus longtemps. Dans les pays pauvres, maladies infectieuses ou carences en vitamine A augmentent les risques, notamment de xérophtalmie, c'est-à-dire qui opacifie la cornée. Alors si vieillesse et hérédité sont les premières causes de ces maladies, les modes de vie sont aujourd'hui incriminés. Tabac, alimentation, écran, autant de facteurs responsables de leur explosion. Les études prédisent que d'ici à 2020, 3 millions de personnes pourraient souffrir de DMLA, soit deux fois plus qu'aujourd'hui. Le nombre de victimes de cataracte atteindrait 5,6 millions et 1,7 million d'individus auront un glaucome. Quant à la myopie, on parle désormais d'épidémie. Elle touche une personne sur deux en Europe. Le fait d'être de moins en moins exposé à la lumière du jour et de ne pas voir sur de longues distances dérègle chez les enfants la croissance de l'œil. En outre, il a été prouvé, notamment chez l'animal, que l'exposition à la lumière bleue émise par les LED des écrans détruit les cellules de la rétine. Le tabagisme, lui, multiplie par deux le risque de cataracte et par 3 à 5 celui de DMLA. C'était dans le courrier Laval.com, mais également dans le journal Le Reflet, une pétition pour indemniser les chiens d'assistance victimes d'accidents. La résidente de Sainte-Catherine et sa fille Ingrid Carré ont mis en ligne une pétition en ce sens, s'adressant au ministre des Transports, Laurent Lessard, et à la SAAQ. Elle vise recueillir 1000 signatures dans le but de faire changer la loi. Le chien représente les membres d'une personne handicapée, Tia. Le chien de ma fille lui ouvre la porte, ramasse les choses par terre et la sort de sa solitude, soutient Madame Gingras. Sa fille se trouvait à la fin avril sur une piste cyclable à Montréal avec son animal quand une voiture est passée très vite, a happé son chien d'assistance et a pris la fuite. Quand je suis arrivée auprès d'elle, le chien était allongé par terre et ma fille était en pleurs, raconte Madame Gingras. Une ambulance pour animaux est venue chercher Tia et l'a transportée à un hôpital vétérinaire de la Chine. Madame Carré a dû défrayer les coûts du transport et de l'hospitalisation. La facture montait à 2 000 $. L'animal est rétabli depuis et est de retour auprès d'elle. Ingrid Carré a fait des démarches auprès de la SAAQ pour obtenir une indemnisation, mais on lui a répondu que les animaux n'étaient pas assurés, indique Madame Gingras. Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAQ, a indiqué au Reflet qu'Ingrid Carré sera indemnisée pour dommages matériels, puisqu'il s'agit d'un délit de fuite. Il précise toutefois qu'au sens de la loi, un chien n'est pas considéré comme une personne ni une victime. Il ne peut donc être indemnisé pour dommages corporels. Informée par le journal à cet effet, Madame Gingras soutient qu'elle poursuit la pétition « Je veux que la loi reconnaisse un chien d'assistance comme faisant partie intégrante de la personne handicapée. On le fait aussi pour les autres », a-t-elle dit. En Mauricie, une journée de dépassement de soi pour de jeunes autistes. Un aquathlon caritatif était organisé samedi à Trois-Rivières pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Pour l'organisme Autisme Mauricie, le premier aquathlon a été pour les enfants l'occasion de montrer qu'ils sont capables de se surpasser. L'objectif de l'activité, qui prenait place au Centre de formation professionnelle Bel Avenir, était d'aider les jeunes à croire en leurs capacités. C'est important de montrer que même les enfants différents peuvent se dépasser, a dit une mère, Véronique Bouchard, et c'est important qu'il y ait des défis, on est là pour les encourager. Il y avait une vingtaine de participants qui ont commencé leur aquathlon par une course dans l'eau suivie d'une course à pied. Ils ont tous reçu une médaille pour avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Dans les sports, ils ne sont pas toujours intégrés dans les équipes sportives dites « normales », dit Sarah-Pierre Guévin. L'étudiante a consacré plusieurs heures à enseigner la natation aux enfants participants. L'argent récolté sera remis à Autisme Mauricie et servira à financer les camps d'été offerts aux enfants et aux adultes autistes. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui s'occupent des gens autistes. On les remercie énormément, a dit un père de famille. Et puis, une trentaine de jeunes apprennent à faire du vélo cette semaine à Sudbury. Leur particularité, ils vivent tous avec un handicap. Le camp I Can Bike, leur apprend à la plupart d'entre eux d'apprendre à circuler à bicyclette seul, comme leurs frères, leurs sœurs ou leurs amis. C'est un texte de Frédéric Projean, paru sur le site d'ici-radio-canada.ca, suite, bien sûr, à la diffusion d'un documentaire. Christian Yanchuk, 17 ans, est atteint de paralysie cérébrale lors de sa 4e journée au camp. Il roule déjà sans l'aide des instructeurs. En le voyant ainsi, sa mère, Suzanne, pleure de joie. Ça lui donne de l'indépendance et tellement de joie. Il va se sentir comme eux, entre guillemets, son frère et sa sœur. Le programme est offert pour une 2e année par le Centre de traitement pour enfants d'Horizon Santé Nord. La physiothérapeute Nicole Graham estime que les progrès se voient très rapidement chez les enfants. Elle estime que 80% des participants pourront pédaler en totale autonomie à la fin de la semaine. Selon elle, cet apprentissage a surtout des conséquences positives sur leur estime de soi et leur confiance. C'est comme de la magie. Même les enfants disent « je ne peux pas croire que je fais cela ». On n'a pas besoin d'aller très très loin hein, parfois pour se sentir en vacances et en pleine nature. Tiens, parlons de la nature, parlons du Centre de la nature de Laval qui est accessible. Et pour nous en parler, j'ai au bout du fil Luc Latulippe qui est chef de division à la ville de Laval. Bonjour Monsieur Latulippe.
Bonjour.
Alors parlez-nous un peu du Centre de la nature de Laval. D'abord, il est situé où exactement?
Il est situé dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Laval, je vous dirais à l'angle du boulevard Concorde et de la 25 qui se trouve être Pie-9 quand on traverse le pont Pie-9, donc l'autoroute 25.
OK, d'accord. Alors, c'est le Centre de la nature, c'est un énorme centre, c'est gros, c'est petit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Qu'est-ce qu'on peut y faire?
Il fait 1,8 km de long par presque 1 km de large.
Oui.
C'est un parc urbain, un parc en pleine ville de Laval. Mm-hmm. Beaucoup de sentiers accessibles. Présentement, on ne peut pas confirmer qu'on est accessibilité universelle, mais c'est un parc qui existe depuis maintenant 40 ans.
Mm-hmm.
Certains bâtiments sont vieillissants, mais au cours des prochaines années, il y aura une cure de rajeunissement. Et c'est clair que moi, une de mes volontés, c'est que ça devienne un site d'accessibilité universelle.
Qu'est-ce qui vous a poussé à ça, monsieur? Pardon de vous interrompre, mais oui. Qu'est-ce qui a fait que vous, vous avez dit, moi, je veux que ce centre de la nature, que l'accessibilité en soit universelle?
Ben, c'est une partie importante pour moi.
Oui.
La ville de Laval y croit de toute façon, mm-hmm. parce que dans toutes ses constructions présentement, c'est vers cela qu'elle s'enligne. Là.
Oui.
Et particulièrement le Centre de la nature, qui est déjà accessible depuis plusieurs années. On accueille beaucoup de groupes à mobilité réduite ou avec
oui.
différents handicaps.
Oui.
Et pour moi, c'est normal que si on fait une cure de rajeunissement à nos bâtiments, même à nos sentiers, qu'on puisse le faire en intégrant le plus possible tous les gens, là,
mm-hmm.
peu importe.
Mm-hmm.
On a fait dernièrement, en 2015, la forêt du 50e, qui est une forêt en milieu urbain, 10 000 arbres.
Mm.
Et on a fait un sentier en paillis, un sentier où on a excavé pour faire en poussière de roche, justement pour permettre, soit aux familles avec une poussette ou quelqu'un en fauteuil roulant ou avec une marchette ou peu importe, qu'ils
mm-hmm.
puissent au moins circuler dans une partie de la forêt. Fait que pour moi, comme je vous dis, ça devient important que chaque coin du Centre de la nature, que les gens peuvent s'y rendre et peuvent admirer ce centre-là qui a beaucoup de jardins,
oui.
De fleurs. Je vous dirais, comme dès le départ, c'est pas tous les sentiers en tant que tels qui peuvent
être
accueillir des gens en fauteuil roulant, mais je vous dirais à grand pourcentage, à 90%, vous
ah,
allez
oui.
partout. On a des sentiers en asphalte qui fait le tour du site.
Mm-hmm.
Dans les jardins, c'est souvent en poussière de roche. Quelquefois en paillis. Lorsque c'est en paillis, c'est un petit peu plus difficile à circuler.
Oui, c'est vrai, oui.
Mais parfois avec de l'aide, là, dépendamment quel genre de justement
oui.
de fauteuil on a.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a des jeux aussi pour les enfants, hein, qui sont accessibles.
Oui, on a des jeux accessibles pour la mobilité réduite. Donc, un jeune peut même monter avec son fauteuil roulant sur les ponts. Et là,
ah, oui.
dépendamment de l'handicap, bien, le jeune pourrait glisser dans une glissade et la maman descendre avec le fauteuil et revenir à la glissade, reprendre son jeune.
Ah oui?
Oui. Puis là, justement, ça aussi, on est en train de rénover ce jeu-là.
Oui.
C'est plus de 300 000 $ d'investissement. Une nouvelle balançoire personne handicapée avec une balançoire à côté plus de type familial.
Ah oui?
Oui. On a des jeux électroniques également où on peut peser sur des pitons, puis c'est une surface également qui est accessible pour fauteuil roulant à cet endroit-là. Okay. On a une magnifique ferme bâtie en 1971, donc un fauteuil peut s'y rendre. Vous pouvez
oui.
aller à l'intérieur de la ferme. Les couloirs sont quand même très larges, en tout cas assez larges pour un fauteuil, assurément.
D'accord.
Par contre, pour entrer dans la ferme, il faut de l'aide. Il n'y a pas de porte automatique nécessairement.
Bon.
Mais avec aide, les gens peuvent circuler facilement.
D'accord. Donc, n'hésitez pas à demander, quoi, c'est ça? Parce que je
oui,
pense que
exactement.
Ce que vous êtes en train de nous dire à M. Latulippe, c'est que il y a sur place des gens de bonne volonté qui sont toujours
oui.
prêts à aider les personnes, même si ce n'est pas totalement accessible. OK.
Effectivement. Si la personne est seule ou elle a besoin d'aide, c'est clair que nos employés... On les informe à chaque début d'année dans des rencontres
bon.
D'employés que c'est important pour nous également.
Bien sûr. Il y a aussi une serre de plantes tropicales?
Oui. Ça également, on peut y avoir accès sans problème. À l'intérieur, bon, c'est des plantes tropicales, donc les couloirs sont peut-être un petit peu moins larges qu'à la ferme, mais on peut quand même y circuler. Et également, là, il faut peut-être demander de l'aide, mais c'est ça. Les couloirs sont un petit peu plus restreints
étroits,
parce qu'on est dans une serre
bien
avec
sûr.
Des arbres, des plantes,
bien
quelques
sûr.
Oiseaux également en liberté, puis une petite étendue d'eau avec des poissons rouges, des trucs comme ça, là, avec un petit pont, mais c'est une visite qui peut être agréable également.
En tout cas, quand on dit oasis de quiétude, je pense
oui.
que le Centre de la nature porte bien son nom. Puis c'est, en tout cas, pour les gens de Montréal, c'est à vos portes, quoi.
Oui, c'est très paisible.
Oui.
Il y a des endroits super où on peut s'asseoir, pique-niquer avec la famille. Comme je vous dis, il y a deux lacs qui sont là qu'on peut...
utiliser aussi.
Oui, il y a des canots, kayaks, comme
oui.
je vous dis, dépendamment du type...
de handicap, bien
là.
Sûr. Là, bon, j'imagine, entre autres, pour les personnes peut-être à mobilité réduite, c'est peut-être un petit peu plus difficile,
oui.
mais... Après tout, si la personne est accompagnée par ses frères et sœurs, eh bien,
oui.
on peut se... Mon Dieu, il me vient un mot anglais, c'est épouvantable. On peut se séparer, on va le dire comme ça, et puis
oui.
il y en a qui peuvent peut-être profiter du plan d'eau pendant que d'autres, eh bien, justement, vont aller profiter de cette balançoire accessible ou autre, quoi.
Il y a un petit casse-croûte également où vous pouvez aller manger. Il y a un ascenseur qui permet d'aller aux toilettes qui est dans le sous-sol. Là. C'est un chalet qui...
D'accord.
On est devant le lac, là, c'est super.
Ouais.
Donc, il y a le casse-croûte et pour aller aux salles de bain... Pour descendre, il y a un ascenseur.
Ah.
Donc, il
n'y
a aucun problème à ce moment-là. Nos toilettes sont adaptées. Les entrées sont quand même très larges. Là, il n'y a
D'accord.
pas beaucoup de difficultés pour avoir accès aux salles de bain. Ça,
c'est... Et c'est gratuit.
C'est gratuit. L'accessibilité au site, c'est gratuit. Les non-résidents, il y a des frais de stationnement de 7 $, mais il y a des places, évidemment, pour les personnes handicapées qui sont très, très près de nos points,
oui,
comme je dis, du chalet, du casse-croûte,
des
toilettes. C'est à proximité, puis c'est un site quand même magnifique qui coûte pas cher, comme vous avez dit.
Mm-hmm.
On se sent en pleine nature dans une ville, c'est à proximité de Montréal, de la Rive-Nord.
Ben oui.
Je crois que ça peut être un endroit très intéressant à venir fréquenter pour une demi-journée ou une journée.
C'est pour ça d'ailleurs que je tenais à vous inviter aujourd'hui à l'émission Aime l'été. Luc Latulippe, je rappelle que vous êtes chef de division de la ville de Laval et que nous parlions justement du centre de la nature de Laval, un endroit accessible à découvrir. Voilà,
oui,
Monsieur Latulippe. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente journée, une belle saison.
Bien, moi aussi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis,
ça nous fait
plaisir.
J'invite
tous les gens à venir au Centre de la nature. Puis, on va bien les accueillir.
D'accord. Merci, Monsieur Latulippe. Bonne journée.
Okay, bonne journée.
Allez,
à vous.
Au revoir.
C'è un sogno che torna ogni tanto a riempir le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda, adesso ti sveglio e faccio sognare anche te e balla con me. Stringimi forte al cuore, balla con me. Dai, 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 diri, dai, balla, balla con me. Anche se dormi in piedi, balla con me. La tua camicia da notte brilla nel blu. Sorridi tu. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo felice ballando con te.
C'est charmant, ça. Hein? Un petit peu Giorgio Conte, un petit bout d'Italie. Pour nous amener vers un sujet qui n'a absolument rien à voir ni avec l'Italie, ni avec Giorgio Conte, quoique j'imagine qu'en Italie, on doit être aussi très, très sensible à ce sujet. Quel est-il, ce sujet? Eh bien, c'est la faculté de pouvoir vivre les autos contre les piétons. On préférerait que ce soit avec les piétons et que ça se passe bien. Et j'ai ici avec nous en studio, bonjour Martine, Martine Lorrain, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes consultante en aménagement et en urbanisme de la Société Logique. Je voudrais d'abord en quelques mots que vous nous rappeliez la mission de la Société Logique.
Oui, avec plaisir. En fait, Société Logique est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de promouvoir et d'intervenir dans le développement et la création d'environnements universellement accessibles.
Bon.
Donc, nos activités sont, par exemple, la promotion du concept d'accessibilité universelle, mais aussi l'offre et la consultation en aménagement.
Alors, il y avait une consultation très, très importante autour de la cohabitation entre les véhicules et les usagers, parce que malheureusement, on constate qu'il y a de plus en plus de décès dans les villes. Ça touche beaucoup les personnes âgées,
c'est
bien
ça.
Alors, je voudrais, donc, le contexte, c'est celui que je viens d'établir ou
largement? Oui, plus largement, au printemps dernier, en fait, Société Logique, comme vous venez de le mentionner, a participé à cette consultation publique. Où l'enjeu majeur, comme son nom l'indique, c'est la cohabitation entre les véhicules lourds et les usagers vulnérables, qui sont en fait les piétons et les cyclistes. Et les plus vulnérables d'entre eux sont ceux qui voient moins bien, entendent moins bien, qui se déplacent ou comprennent différemment.
Oui, oui.
Donc,
oui.
C'est dans cette optique, dans ce contexte, que Société Logique a décidé de participer. Et bien entendu, plus largement, là, pour répondre à votre question concernant le contexte, là, c'est cette consultation, elle émerge de l'objectif de la ville d'éliminer les décès et les blessures graves sur son réseau routier. Et ça s'intègre dans l'approche Vision Zéro, qu'on entend parler de plus en plus. La ville a adhéré à cette approche il n'y a pas si longtemps. Et puis, ben, c'est un peu vaste, ça nous vient de la Suède, la fin des années 90.
Oui.
Mais je pense que le plus important à retenir, là, c'est que ça implique un changement de paradigme, justement, comme vous le disiez au départ, par rapport à l'approche traditionnelle qui, elle, est privilégiée, dans laquelle nous sommes encore, soyons honnêtes, la fluidité des véhicules motorisés au détriment de la sécurité de la mobilité des usagers de la route.
Alors, quelles ont été les recommandations de la commission? Parce que je pense qu'il y en a eu, quoi, une trentaine?
Exactement, oui.
Qu'est-ce que vous recommandez? Hein? Parce que qu'est-ce qu'on peut changer? Il me semble qu'on change déjà tellement de choses. On voit ne serait-ce que dans un quartier comme le plateau Mont-Royal, alors on met des fleurs partout pour que les gens aillent plus doucement. On met des dos d'âne, même si ça ne plaît pas, aux ambulances et aux pompiers, parce qu'il ne faut pas oublier que les dos d'âne, ça oblige à ralentir. Alors, en cas d'urgence... personne n'est content. Hein. C'est difficile. Hein.
Effectivement, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de jouer sur différents plans.
Oui.
Il existe différentes mesures. C'est sûr que nous, dans l'optique d'accessibilité universelle, on préconise les mesures qui sont physiques. En fait, où il y a les endroits les plus conflictuels, souvent qu'on retrouve aux intersections.
Oui.
Mais l'idée, en gros, c'est vraiment de ralentir les véhicules motorisés et de réduire le volume sur la route pour donner la priorité aux usagers les plus vulnérables. Donc, dans cette consultation, il y a eu 17 mémoires qui ont été déposées. Ils ont retenu à l'heure actuelle 30 recommandations.
C'est
et ça nous a fait plaisir, nous, Société Logique, parce qu'on a retrouvé plusieurs des nôtres dans ce rapport. Par exemple, il y a eu l'ajout, justement, de mesures physiques pour sécuriser les endroits conflictuels. Donc, on a parlé de marquage au sol, de saillie de trottoir, de refuge piéton accessible universellement lorsque, par exemple, on a 6 voies à traverser permettre une traversée en deux temps. On a également stipulé dans ce rapport-là l'ajout de mesures pour sécuriser les entrées chartières à fort débit, où on a des véhicules lourds qui traversent le trottoir fréquemment, donc les traiter peut-être comme des intersections, faire attention. Et peut-être une petite dernière, le maintien de l'intersection de tourner à droite au feu rouge se retrouvait également dans ce rapport.
Et Dieu sait si, par exemple, toutes les associations, tous les organismes autour des problèmes de vision qui chapeautent ce problème de handicap-là, le virage à droite, ils n'aiment pas beaucoup ça non plus.
Oui, tout à fait. Et même, j'ajouterais pour tout le monde.
Pour tout le monde, c'est vrai, vous avez raison.
On ne voit pas ces gens-là en voiture arriver lorsqu'on traverse la rue, donc
j'ai lu assez récemment... Un espèce de débat sur les décomptes audio sonores. En avez-vous entendu parler, vous, de ça, Madame Lorrain?
Par rapport au feu.
Oui, c'est ça. Parce que, entre autres, il paraît que ça existe à Singapour. Sauf qu'il y a des gens qui disent que ça existe à Toronto puis que ça n'a pas fait diminuer du tout le nombre de décès. Mais peut-être
mais malheureusement, je ne connais pas les statistiques par rapport aux décès, mais assurément, lorsque les intersections ont des configurations qu'on pourrait qualifier de complexes, le feu sonore est absolument nécessaire pour les personnes qui voient moins bien. Comme par exemple, quand les traverses sont désalignées ou lorsqu'on retrouve un tout rouge, c'est-à-dire où tous les feux rouges pour les véhicules. Donc, à ce moment-là, la traverse a un feu sonore pour permettre aux personnes qui voient moins bien de traverser, parce qu'autrement, ils se fient au son du véhicule pour effectuer leur traverse. Donc, pour répondre à votre question, je ne connais pas les statistiques, mais c'est absolument nécessaire dans plusieurs situations.
OK. Bon, est-ce qu'on est optimiste? Est-ce que vous trouvez qu'il y a déjà eu beaucoup de choses de faites de la part des villes ou pas?
À l'heure actuelle, une des recommandations qui se retrouvait dans ce rapport était justement de réduire la vitesse de 30 à 40, ou de 40, dépendamment du type de rue. Et bon, déjà, ça a été annoncé dernièrement. Oui. Donc, on salue en fait l'ensemble des petites initiatives pour éventuellement changer ce fameux paradigme, inverser
Oui, parce que mine de rien, entre 50 et 30 km/h,
il y a une différence.
Il y a une différence au niveau du freinage qui est énorme.
Tout à fait,
si au dernier moment, on s'aperçoit qu'il y a... on dit que ce sont les personnes âgées qui sont en premier lieu les personnes les plus à risque au niveau des accidents sur la route. C'est vrai,
On peut penser également aux jeunes, en fait. C'est les gens qui ont différentes problématiques, mais pour les personnes âgées, il y a également ce sentiment d'insécurité qui joue pour beaucoup dans leurs déplacements. Donc, l'idée de mettre un décompte suffisamment long pour leur permettre de traverser la rue, et etc. Mais encore une fois, c'est bon pour l'ensemble de ces mesures-là, sont bonnes pour tout le monde.
En fait. Oui, et puis il y a toujours le civisme aussi. Mais ça, le problème, c'est qu'il n'y aura jamais de loi et de règlement. Hein? Parce que, je veux dire, qu'on soit sur ses deux pattes ou qu'on soit voyant ou qu'on soit... Quand on est en voiture, on a souvent très peur des autres, quelles que soient les lois et les règlements. Alors, c'est encore plus vrai pour les piétons, quoi. Et ça, malheureusement, on voit tous les jours des gens qui n'en ont rien à faire. Allez, hop, là, il y a des gens qui s'engagent.
On choisit le débat des aménagements
mais
physiques
vous avez raison. Donc, les trottoirs, vous m'avez dit, les feux sonores. Avec quoi est-ce qu'on peut lutter aussi,
On peut, par exemple, réduire la largeur des chaussées.
Oui.
En mettant, par exemple, les saillies de trottoirs. Bien délimiter les trottoirs, s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacles. Mettre un décompte numérique aux feux piétons suffisamment long pour permettre les traverses. Installer de bons refuges piétons au centre des rues qui ont par exemple, plus de 6 ou même 4 voies de circulation, etc. Il existe plusieurs mesures.
Alors, écoutez, là, vous l'aurez compris, la société logique, c'est une société importante hein, parce que vous mettez en place tout ça et on vous en remercie. Martine Lorrain, consultante en aménagement et en urbanisme. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y aura peut-être d'autres, Dominique Ferrandez, un peu partout.
Merci beaucoup.
Dans la main, je vous en prie, Madame Lorrain, et au plaisir. Merci, au revoir.
Merci.
Et on aime l'été. On aime l'été parce qu'on rencontre des gens formidables et puis on se balade beaucoup. Et là, je vous amène en Gaspésie. Je vous amène à la découverte du parc Forillon. Oh, mais le parc Forillon, il n'est pas accessible. Mais si, il est accessible. Sinon, je n'aurais pas invité Sébastien Nadeau, gestionnaire de l'expérience du visiteur du parc Forillon, à répondre à mes questions. Bonjour, Monsieur Nadeau.
Bonjour, Madame Sey.
Alors, écoutez, nous sommes vraiment ravis de pouvoir parler, de pouvoir vous parler. Quel temps vous avez aujourd'hui en Gaspésie, là?
C'est magnifique, un beau ciel bleu, la température est extraordinaire. Ah. On a vraiment là, un très bel été jusqu'à présent.
Eh bien, tant mieux, parce qu'alors nous, on a un beau ciel gris et une nouvelle fois, il flotte.
Une raison de plus pour venir faire un tour en Gaspésie.
Mais remarquez, c'est vert en ce moment. Hein? C'est un peu, alors, les oui. parcs sont verts. Vous pouvez être tranquille. Chez nous, il n'y a rien de brûlé. Hein?
Ça, <c'est... rire> chez nous non plus. Dans l'Ouest, c'est difficile, mais non, chez nous, pour l'instant, tout va bien.
Alors, vous êtes situé sur la pointe hein, de la Gaspésie.
Exactement. Alors, entouré d'eau, c'est vraiment une péninsule. Dans le golfe Saint-Laurent, on est entouré du golfe de la baie de Gaspé. C'est un très bel endroit.
Et c'est un endroit qui est accessible, peut-être pas universel, c'est peut-être pas l'accessibilité universelle, mais il l'est quoi, 90% peut-être?
En fait, on travaille très fort à croître l'accessibilité.
Bravo.
Dans les endroits proches des routes et tout ça, plusieurs de nos bâtiments de service, nos centres d'accueil, nos campings, des sentiers sont conçus pour être accessibles aux personnes ayant des restrictions physiques ou autres.
D'accord.
Donc, on a là, plusieurs de nos bâtiments déjà actuellement le sont.
Oui.
Et on a plusieurs projets en cours dans lesquels on rénove nos bâtiments. Et dans ces rénovations-là, on prévoit permettre une plus grande accessibilité à l'ensemble de nos visiteurs.
Je suis tellement contente, cher monsieur, parce que je constate, monsieur Nadeau, que c'est le cas de beaucoup de parcs ici au Québec et peut-être même aussi sûrement à l'extérieur du Québec, mais qui ont ce souci-là de rendre de plus en plus accessible leur lieu. Et ça, c'est vraiment de l'excellente nouvelle. Et rien que pour ça, je suis contente d'animer M l'été pour justement découvrir tout ça. Alors, une personne qui arriverait au parc Forillon, par exemple, à mobilité réduite en fauteuil roulant, elle a accès à quoi exactement, Monsieur Nadeau?
Je peux peut-être y aller par secteur.
Oui, d'accord, avec plaisir.
Donc, le parc présente différents secteurs ou est divisé en différents secteurs.
Mm-hmm.
Donc, si je commence par exemple par le coin de Penouille, où on a eu des travaux quand même importants de mise à niveau de nos infrastructures, premièrement, le bâtiment d'accueil en haut et évidemment l'ensemble des services qui s'y trouvent permettent une accessibilité à l'ensemble des utilisateurs, là, donc que ce soit aux portes automatiques, les toilettes et ainsi de suite, les services qui s'y trouvent.
D'accord.
Ensuite, le secteur de Penouille, c'est un...
Penouille, hein?
Presqu'île, oui, Penouille. C'est une presqu'île de sable. Donc, on descend, on accède à la presqu'île et sur la presqu'île, on a des passerelles de bois. On a des sentiers aménagés, asphaltés. Donc, les gens peuvent facilement accéder au site. Il y a une descente au départ, sauf qu'on a un système de navette électrique. Donc, les gens peuvent embarquer en haut, sont apportés en bas sur la presqu'île. Donc, c'est assez facile d'y accéder.
Mm-hmm.
Et la même chose au retour, les gens peuvent profiter de la navette électrique. On demande, c'est pas tout le monde qui va remonter avec la navette électrique, mais les personnes qui ont... une capacité restreinte physiquement, peuvent utiliser la navette pour remonter jusqu'en haut. Donc, tout ce secteur-là a été rendu accessible. Alors, ça, c'est très, très, très intéressant pour les gens qui se présentent dans ce secteur-là et dans les projets qu'on y a développés, on avait ce souci-là de donner cet accès.
Bon, on m'a souvent dit, cher monsieur, que les croisières aux baleines, c'était pas accessible. C'est pas vrai chez vous, hein, c'est accessible.
Exactement. Ah. Donc, si je m'en vais dans le secteur sud du parc, on a encore là, dans le secteur de Grande-Grave, on a ce qu'on appelle des sites patrimoniaux qui sont accessibles aux visiteurs et on a aussi des activités, dont les croisières aux baleines.
D'accord.
Qui est très fier de pouvoir accueillir à son bord des gens avec une mobilité réduite.
Est-ce que c'est rare,
profiter de cette croisière-là. Et c'est quand même une expérience à vivre. On a plusieurs espèces de baleines qui viennent nous voir, dont le rorqual bleu, la plus grosse des baleines, le plus gros être vivant, mammifère à avoir vécu sur la planète. Ensuite, rorqual commun, rorqual à bosse, petit rorqual et dauphin et autres.
Ouais.
Donc, on a quand même plusieurs espèces à voir.
D'accord.
Et c'est très, très, très intéressant comme expérience. Mais nos sites patrimoniaux aussi, quand
c'est possible,
on s'efforce de pouvoir les rendre accessibles. Des fois, le défi est un petit peu plus grand, mais il en demeure pas moins que, par exemple, pour le magasin M&M, qui est un des attraits, je dirais, un des attraits les plus populaires au parc. Alors, le magasin, le rez-de-chaussée, l'endroit où on en fait la mise en valeur, est accessible aux personnes en mobilité réduite.
D'accord.
Et On a une exposition à l'étage qui, elle, est pas directement accessible, sauf qu'au rez-de-chaussée, on a des cahiers, des livres, des outils qui nous permettent de présenter ce qui se trouve là.
Donc,
parfois, on trouve des solutions, d'autres manières d'être capable de présenter
exactement
cette thématique-là aux gens.
Sur quoi l'exposition? L'exposition,
en fait,
M. Nadeau?
L'exposition qui est au rez-de-chaussée, on retrouve le magasin tel qu'il était en 1920. Donc, c'est vraiment...
Ayman and Sons. Ayman and Sons.
Exactement. Donc, M. Ayman, lorsqu'il est arrivé ici, c'était... il venait d'abord faire le commerce de la fourrure. Finalement, il s'est retourné vers la pêche à la morue, qui était la principale raison économique pour laquelle on a développé la Gaspésie. C'était extrêmement populaire au 19e et 20e siècle, la première moitié du 20e siècle. Et là, ce qu'on retrouve là, c'est l'atmosphère qui régnait dans le magasin. C'était le cœur des activités à Grande-Grève, qui est un village extrêmement important pour la pêche à la morue. Donc, au rez-de-chaussée, on retrouve le magasin tel qu'il se présentait en 1920 avec les articles qu'on y vendait, comment le système de crédit avait été établi pour gérer la pêche à la morue. Mm. Et à l'étage, qu'on retrouve, c'est une exposition davantage sur le mode de vie des familles de pêcheurs-cultivateurs de la région.
D'accord.
Et ces gens-là vivaient au rythme de la pêche sur quatre saisons. Donc, on retrouve ces thématiques-là présentées, mais on la présente, on s'efforce toujours de la présenter parce qu'on a du personnel en bas qui va accueillir les gens, qui va s'assurer de toujours bien répondre aux gens et pouvoir présenter ce contenu-là si les gens ont de la difficulté à y accéder à l'étage.
Monsieur Nadeau, on parle souvent des personnes à mobilité réduite, mais je sais qu'il y a aussi un sentier, je pense, pour les personnes non-voyantes.
Et on s'en va du côté nord.
C'est ça.
Ce qu'on appelle
d'accord.
Le Prélude à Forillon, qui est près du centre d'interprétation.
D'accord.
Donc, le sentier Prélude à Forillon avait été dessiné à l'époque pour avoir une accessibilité, on va dire, universelle dans le cadre du sentier. Donc, c'est une passerelle de bois. Et le long de ce sentier-là, on a un cordon que les gens avec un handicap visuel peuvent suivre. Et il y a des panneaux d'interprétation. Et chaque panneau d'interprétation est accompagné d'un panneau où on peut lire en braille l'information.
Bravo.
Donc, on a 5 stations le long de ce sentier-là, et le sentier vise à présenter les principales thématiques qui sont à la base de la création du parc. On parle de géologie, des oiseaux marins, des mammifères et de la faune marine.
Et là, on prend l'air du large, et ça sent le varech et tout ce qu'on aime.
On est près de la plage. On a eu un enjeu à l'automne dernier, à l'hiver dernier, parce qu'on a eu une bonne tempête qui est venue abîmer des portions de ce sentier-là, parce qu'on est près de la mer.
D'accord.
Mais on a un projet de réfection de notre centre d'interprétation qui jouxte le sentier, qui est juste à côté.
D'accord.
Et dans le cadre de ce projet-là, on va évidemment refaire, réaménager ce sentier-là et le remettre à niveau aussi, parce que les panneaux qui s'y trouvaient avaient quelques années déjà. Donc, on veut les remettre à neuf et ramener le sentier là, pour être capable d'un usage là,
juste,
très large.
Juste avant qu'on vous quitte et qu'on quitte la Gaspésie, à regret d'ailleurs, M. Nadeau, je dois dire, est-ce qu'on peut héberger des personnes à mobilité réduite au parc Forillon?
Tout à fait.
Bon.
Les gens qui voyagent à mobilité réduite vont souvent voyager en VR. Donc, on a plusieurs sites qui sont aménagés pour le VR, et dans les sites avec services, donc électricité et autres, on va avoir des bâtiments qui sont à accessibilité universelle.
Parfait.
Donc, on est capable pour ces gens-là de les accueillir à l'intérieur de ces bâtiments-là. Maintenant, on a aussi le projet de rénover l'ensemble de nos bâtiments de services, et dans le cadre de ce projet-là, on va aller au-delà de ça, on va faire tous les bâtiments de service.
Okay.
Tous ces bâtiments-là vont avoir vont être adaptés pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. Et aussi, une des tendances importantes dans le marché du camping en général, c'est ce qu'on appelle l'hébergement alternatif. Donc, on développe des nouveaux modes de camping et on a mis en place, nous, ce qu'on appelle des tentes authentiques, qui est à mi-chemin entre le chalet et le camping.
OK,
c'est une structure de bois recouverte de toile.
Et quand, excusez-moi, mais quand vous dites authentique, c'est authentique, hein? C'est pas...
Oui,
c'est...
En fait, nous, on l'a écrit O-T-E-N-T-I-K.
Mais en deux
mots, le concept derrière, c'est vraiment d'essayer d'offrir le meilleur des deux mondes.
Bon.
Pour des gens qui n'ont pas d'expérience de camping ou qui veulent découvrir le camping, qui ont un intérêt, ou des gens qui veulent faire un camping des fois sans avoir à tout monter la structure ou déplacer le VR. Et dans ces tentes-là, on en a une aménagée, on en a 15, mais il y en a une qui est aménagée pour les personnes à mobilité réduite. Donc, une grande passerelle d'accès, le bâtiment de service qui est à côté aussi à mobilité, pour accès à mobilité restreinte. Là.
Okay.
Donc, c'est des, dans le fond des possibilités d'hébergement pour ces gens-là qui veulent venir au parc, profiter du parc.
Et sans compter que le parc est gratuit.
Cette année, on profite du 150e, donc voilà. Les gens peuvent venir à l'intérieur du parc tout à fait gratuitement. Les services d'hébergement sont payants, mais les gens peuvent venir visiter le parc tout à fait gratuitement. C'est très intéressant.
Alors, on va le dire, alors on va dire à toutes les personnes qui nous écoutent et qui auraient peut-être un petit peu peur. Oui, mais moi, je me déplace mal, je suis en fauteuil et tout. Non, allez-y, il y a vraiment des choses fantastiques à découvrir là-bas, même si c'est encore en construction pour certains éléments. Il y a, comme vous venez de nous le dire, M. Nadeau, beaucoup à faire, beaucoup à voir, beaucoup à sentir.
C'est ça. Et notre personnel est très sensibilisé à ça et a à cœur d'accueillir ces gens-là, de leur offrir tout le soutien nécessaire et de leur offrir la meilleure expérience possible.
Et on l'apprécie énormément, M. Nadeau, du Parc Forillon. On va vous souhaiter un bel été. On va souhaiter de belles visites à toutes les personnes qui nous écoutent et qui prendront le temps, je l'espère, d'aller profiter du ciel bleu que vous avez en Gaspésie en ce moment et de votre parc.
Ben, on vous attend chez nous.
D'accord.
Et
merci.
Un très bel été à vous aussi.
À vous aussi, M. Nadeau. Au revoir.
Au revoir.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. D'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, le cœur à port. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand. Une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, un ami à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien.
Et c'est ce qu'elle est. Enzo Enzo, quelqu'un de bien. Je dis ça, remarquez, je ne la connais pas du tout. Mais parfois, quand on écoute un univers musical, on se dit, ah, cette femme-là, ça doit être quelqu'un de bien. Et j'en ai une auprès de moi qui est quelqu'un de bien. Et ça, je peux vous le garantir. C'est Camille Tchaï. Bonjour, Camille.
Bonjour, Clotilde.
Alors, je vous la présente. Comment, Camille, est-ce que je commence par l'escrimeuse, par la thérapeute, par l'animatrice, chroniqueuse aussi, en télévision, chez Ami?
Oui.
Vous en faites des choses, hein, Camille?
Oui.
Voulez-vous qu'on démarre par le début, peut-être?
Oui, certainement.
Vous êtes née au Cambodge?
Non, je suis née à Montréal.
Vous êtes née à Montréal.
Mais d'origine française et cambodgienne.
D'accord, française et cambodgienne. D'où votre nom de Tchaï, C-H-A-I, tréma.
C-H-A-I, pas de tréma.
C-H-A-I et il n'y a pas de tréma, d'accord. Voilà. Donc, Tchaï comme ça. Et donc, vous êtes née à Montréal, vous venez de le dire. Camille, vous êtes née sans bras gauche. Et sans jambe gauche.
Exact.
Donc, quand vous êtes arrivée, et on a jamais su pourquoi.
Non, on n'a jamais su pourquoi. Aujourd'hui, je ne connais pas encore la raison. Mes parents ne savaient pas non plus que j'allais arriver comme ça. Donc, ça a été un petit peu une surprise. Mais pour être franche avec vous, le fait qu'ils ne le savaient pas, ils ont juste tout simplement accueilli. Ils m'ont accueillie. Mm-hmm. Je suis leur premier enfant. Donc, ils avaient le cœur grand ouvert.
Mais
et
oui.
Voilà, l'amour était là, la confiance était là. Donc, moi, c'est avec ces ingrédients-là que j'ai...
grandi.
Oui, exactement.
Avec un sourire, je dois dire. Si vous regardez la chaîne Ami, vous connaissez Camille. Et c'est quelqu'un qui a un sourire absolument à faire tomber tout le monde. Non, mais c'est vrai, parce
c'est
que vous respirez la joie de vivre, Camille, absolument. Et, et ça ne me surprend pas, d'ailleurs, peut-être aussi que vous ayez aussi un peu choisi la voie de la thérapie aussi.
Oui.
Vous avez envie de faire du bien aux autres. Hein?
C'est vrai. J'ai envie de faire du bien aux autres parce que j'ai reçu aussi beaucoup de bien des autres en retour. Pour moi, c'est un petit peu un échange. Mais c'est vrai que ça part de soi en premier.
Ouais.
Vous mentionnez le sourire, c'est quelque chose que je trouve tellement important parce que je trouve que ça dédramatise tout de suite une situation. Je suis habituée de faire face au regard des autres. Il y en a qui vont être curieux, d'autres mal à l'aise, d'autres gênés. Mm-hmm. Le sourire, ça fait tomber un peu toutes les barrières.
Les barrières.
Ça montre que moi, je suis ouverte, que
Exactement.
Je suis à l'aise avec mon handicap. Je suis bien dans mon corps.
Mais oui, absolument.
Oui.
Je tiens à préciser que vous portez une petite robe d'été.
Oui.
Vous ne portez pas de prothèse
non, pas pour l'instant.
Au niveau de votre bras. Est-ce que ça viendra? Vous ne dites pas pour
oui.
l'instant?
Oui.
Ah oui,
en fait, j'en ai porté une toute mon enfance.
Okay.
Mais après ça, j'ai vécu pendant 3 ans au Cambodge. Donc, à ce moment-là, comme il faisait très, très chaud, j'avais de la difficulté à supporter en fait, la chaleur avec la prothèse
comprends.
En plus. Mais je suis en train de m'en
faire une
autre.
D'accord,
donc oui,
d'accord.
Ça viendra par la
mais
suite.
Mais en attendant, et c'est vrai que ce qui nous frappe toujours tout de suite, c'est le sourire. Ce n'est pas le fait que Camille est handicapée, ça c'est certain. Vous nous avez dit que quand vous étiez au Cambodge, le fait que vous soyez handicapée, alors le regard des autres n'existe pas.
Non, c'est pas un problème.
C'est
oui,
pas un problème. Hein.
Oui, il y avait le regard des autres, bien sûr.
Oui,
mais
oui.
je peux comparer en fait. Le peuple cambodgien avait une façon de me regarder différente, par exemple, que ceux qui me regardent ici au Québec. Mais ce que j'adorais, c'est que c'était un regard tellement curieux, mais tellement naturel, spontané. Et c'est ça que j'aime, parce que ça fait que ça facilite la rencontre avec l'autre. Mmh, et moi, c'est ce que j'aime, c'est la relation avec l'autre, même si elle dure 3 minutes. Ou juste le temps d'un sourire, justement.
Oui, c'est ça. C'est de la communication.
Voilà, tout à fait.
Hein? Puis la communication, ça commence par une seule personne. Quoi,
exactement.
Comme je le dis souvent.
Et oui.
Et vous êtes une grande sportive.
Ah oui, aussi.
Depuis toute petite?
Oui, depuis toute petite.
Vous étiez genre tomboy?
Oui, un petit peu. J'étais un peu casse-cou. Il y avait peut-être un petit peu d'inconscience, mais c'était beaucoup peut-être mon côté. J'avais soif de découvrir, de tester des choses. J'aime beaucoup découvrir des nouvelles sensations. Et même si souvent les personnes, en fait, me mettent des barrières ou eux définissent mes propres limites, j'ai appris à me dire non, 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 c'est pas parce que quelqu'un me dit « Ah, Camille, je pense que tu seras pas capable de faire telle activité. Mm. » Moi, ça vient réveiller quelque chose en moi. Je me dis « Oh non, non, je vais essayer. »
Jamais la petite fille ou la femme que vous êtes devenue ne s'est apitoyée sur elle-même.
Non, ça ne m'intéresse pas. Mm-hmm. Ça, parce que j'ai vu très vite que ce n'est pas ça qui va m'aider à avancer et qui va me faire du bien ou au contraire, non. Donc, j'aurais pu choisir ça parce que c'est un choix qui appartient à chacun, peu importe notre situation de vie, hein, qu'on ait deux bras, deux jambes ou pas.
Absolument.
Voilà, oui, ça touche tout le monde. Donc, non, ça ne sert à rien. Moi, je préfère aller sur le côté positif, essayer de me battre puis de voir ce que je peux gagner au lieu de ce que je n'ai pas, quoi.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous fait avancer, Camille Chai?
C'est une bonne question. Ben, qu'est-ce qui me fait avancer? C'est juste... C'est mon envie de vivre, c'est mon envie de faire des choses, voilà, de me sentir vivante, d'être autonome. Oui. Et encore une fois, c'est toujours pour moi-même, mais en relation avec les autres, parce que toutes les activités que je fais, ben, je suis avec plein de personnes, donc c'est vivre des bons moments, profiter.
Oui, et à ce point... Vous êtes à ce point faite pour le bonheur que vous avez même décidé de suivre une formation et d'essayer d'en faire profiter d'autres personnes.
Exactement, oui, parce que bon, le côté humain, psychologique, évidemment, m'intéresse beaucoup parce que j'ai appris beaucoup de choses de par ma propre expérience de vie.
Bien sûr.
Donc oui, j'ai fait une formation pour être thérapeute en relation d'aide. Donc, c'est encore une fois, c'est une formation très, très riche qui, la première année, c'était beaucoup, en fait, une découverte sur moi-même, sur... Oui. mon intérieur à moi. Ensuite, c'était de, recevoir des clients, échanger. C'est comment je pourrais décrire ça? C'est comme une bulle d'intimité où, voilà, il y a une personne qui peut s'ouvrir, peut-être dire des choses qu'elle n'a jamais réussi à dire. Moi, j'ai envie de voir les gens bien. Oui.
Mais je suis allée sur votre site Internet et j'ai vu la proposition d'une femme, pas la proposition d'une personne handicapée.
Effectivement, mais vous avez bien raison. Hein, c'est ce que je suis en premier.
Mais c'est ça, exactement. non, mais parce qu'on pourrait penser, vous savez, les gens parfois, c'est parce qu'elle est handicapée, alors elle, etc., elle a eu le courage de... Mais c'est pas ça du tout. Vous êtes... Oui, je pense que vous êtes douée pour le bonheur, Camille. Et vous êtes douée pour le partager. Est-ce que je me trompe?
Écoutez, ça me touche que vous me disiez ça, parce que pour moi, c'est naturel, c'est spontané, c'est ce qui m'attire. Donc, c'est vers là que je vais, tout simplement.
Mais vous vous donnez le droit, parfois, comme tout le monde, à la tristesse.
Oui, bien sûr.
C'est important.
Ah, bien sûr.
La nostalgie, l'émotion.
Ah, oui, c'est pas toujours facile. Il y a des jours un petit peu plus difficiles. Encore une fois, ça demande d'être connecté à soi-même, de relativiser, de rester plus connecté au moment présent.
Ouais. Alors, l'escrime. L'escrime et la compétition.
Oui.
Parce que c'est pas seulement de l'escrime du dimanche que vous faites,
Non.
Vous êtes dans l'équipe paralympique canadienne.
Oui, donc avec Team Canada, l'équipe nationale
du
Canada. En fait, ça fait un an que j'ai commencé à faire de l'escrime à peu près.
Seulement?
Seulement, oui. Et en fait, c'est tellement... J'ai comme plein d'énergie qui vient en moi quand on parle de ça, parce que oui, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de temps, c'est un engagement, c'est voilà, beaucoup d'énergie, parce que bon, c'est un sport, mais c'est très demandant. Donc c'est un sport, moi je fais l'escrime en fauteuil roulant. Les gens se demandent toujours, mais comment vous faites pour vous déplacer? On ne se déplace pas. Le fauteuil est fixe sur une piste, donc ce qu'on doit faire, c'est beaucoup avancer ou reculer pour esquiver en fait les attaques.
Bien sûr.
Mais c'est très... C'est très riche, encore une fois, comme expérience, parce que, en fait, moi, ça m'inspire encore à ce niveau-là de me dépasser.
Oui. Quel bon dos ça doit prendre.
Ah oui, tout à fait.
Parce que, justement, pour esquiver comme ça, à la rapidité, vous, c'est quoi? Parce qu'il y a l'épée, il y a le sabre, il y a le fleuret.
Exactement. Alors, moi, je fais en premier de l'épée, et ma deuxième arme, c'est le sabre.
C'est le sabre.
Oui.
Alors, vous avez fait les Jeux paralympiques?
En fait, non, parce que je venais tout juste de commencer, donc je ne pouvais pas me qualifier. Mais j'ai fait plusieurs Coupes du Monde tout au long de l'année.
Oui.
Oui.
Avec des bons résultats.
Ah, ça avance tranquillement. Positive. Chaque victoire est une petite victoire, ce qui m'amènera un jour à la médaille.
Bon, moi, je voudrais savoir, j'imagine que vous êtes accompagnée, mais je rappelle pour ceux qui se joindraient seulement à nous que donc vous êtes escrimeuse, mais il vous manque un bras, une jambe. Je le reprécise pour les gens.
Mais alors, le matériel, se déplacer, la chaise, elle doit être lourde, cette chaise, là, quand vous faites de l'escrime en fauteuil. On dit en chaise, en fauteuil roulant.
Mais vous avez très bien vu, parce que c'est un peu un défi pour moi, justement. Ouais. Il y a 2 semaines, je suis partie en Pologne pour une Coupe du Monde. Oh. Et j'ai dû toute seule, en fait, me rendre à l'aéroport avec mon sac d'escrime, avec mes armes, qui pèsent 23 kilos, plus le fameux fauteuil roulant, qui est très lourd aussi. Je vous dirais que ça me demande beaucoup de dépassement, mais encore une fois, il y a toujours des gens aimables qui sont sur mon chemin. Et moi, je sais que je ne veux pas me priver de demander de l'aide.
Voilà.
Donc, c'est ce que je fais toujours et je fais toujours des très, très, très belles rencontres.
Ah ben oui, j'imagine. Alors là, la prochaine compétition en escrime...
La prochaine va être en novembre à Rome. Ça va être championnat du monde.
OK. Oui. Et est-ce que... Donc là, il faut travailler fort pour les prochains Jeux. Là,
toujours.
Pour les prochains Jeux paralympiques.
Toujours, toujours. C'est dans 3 ans, donc à Tokyo.
Ben oui, de toute façon, vous êtes toute jeune. Donc là, il n'y aura pas un problème d'âge.
Non. Hein? Voilà, c'est juste de travailler très, très fort.
Travailler très fort, ça c'est combien? C'est travailler très fort, c'est combien
c'est
d'heures
plusieurs
d'entraînement?
Heures. On peut dire, le minimum c'est 12-15 heures, mais il va falloir que ça augmente au fur et à mesure, évidemment.
Alors, vous êtes doué pour l'escrime, vous êtes doué pour le bonheur, vous êtes doué pour la télévision. Hein. Oui. On peut vous voir
sur Ami Télé. Oui, j'ai eu le privilège d'animer l'émission Pareil, pas pareil.
D'accord.
Donc, je vous invite à aller voir l'émission si vous êtes curieux.
Formidable, formidable émission d'ailleurs.
Merci
formidable
beaucoup.
Émission. Merci. Et puis, non, vraiment, je suis ravie. Voyez-vous, on aime bien avoir comme ça des gens tout au long de l'été. Pas parce que, encore une fois, ils sont handicapés, qu'ils sont formidables, mais parce que ce sont simplement des gens merveilleux qui ont des choses à nous dire. Et c'était
Merci.
Le cas de Camille Tchai. Merci beaucoup, Camille.
Ça m'a fait plaisir.
On vous dit un gros M, point de suspension, pour les prochaines compétitions.
Merci beaucoup.
Gardez votre beau sourire.
Certainement.
Et puis, j'espère qu'on va vous revoir chez Ami Télé, ou peut-être qu'on va vous entendre ici à un moment donné à la radio.
Avec plaisir, je reviendrai.
Allez savoir. Merci, Camille.
Merci,
Camille Tchai. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir été là. Je vous retrouve dès demain à midi, c'est sûr.